Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch, dernier Cinébrunch avant les fêtes. Donc, on va essayer de vous en faire profiter le maximum parce qu'on sera parti pour les prochaines semaines et on est de retour le 12 janvier pour un Cinébrunch 2019. Revisité ou pas, hein, ça sera décidé pendant les vacances. Vous entendez en fond André-Jean Rouleau et Mélina Lopez-Nadeau qui sont avec moi chaque semaine depuis un certain nombre de mois. Et bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et oui, salut. Et aujourd'hui, ben, comme on s'approche des fêtes grandement, il reste comme 3 jours avant Noël, donc on va vous parler de notre suggestion de film pour Noël, donc nos suggestions en l'occurrence. Donc ça va être assez intéressant. Un peu plus tard dans l'émission, sinon on va critiquer pour vous 3 films comme chaque semaine. André-Jean, tu as vu Mécanique fatale.
Oui.
Mélina, tu as vu La mule.
Oui.
Et j'ai vu le film français En liberté dont je vais vous parler dans la prochaine demi-heure. Mais avant toute chose, quelques nouvelles. Mélina.
Oui, ben en fait, moi, c'est pas vraiment une nouvelle, mais je voulais parler un peu parce que ceux qui ont écouté le 60e épisode de la semaine passée, ils savent que j'étais pas là. Mais j'avais quand même vu un film pour vous et c'est un film qui m'a énormément touchée. Donc, en fait, cette semaine, j'ai juste décidé de vous le recommander. C'est le film Un garçon magnifique, Beautiful Boy en anglais. C'est un drame qui est basé sur une histoire vraie. Puis c'est un film qui est extrêmement touchant. Ça met en vedette Steve Carell dans le rôle du père et Timothée Chalamet dans le rôle du fils. Et donc, ça dresse un portrait bouleversant de l'amour inconditionnel et de l'engagement d'une famille face à l'emprise qu'ont les drogues sur leur fils ainsi qu'à ses tentatives de guérison. Suite aux nombreuses rechutes de Nick, les chefs sont confrontés à la dure réalité de la toxicomanie, une dépendance qui peut frapper à tout moment. Donc, très, très beau film. Il est malheureusement plus à l'affiche au cinéma, mais j'imagine qu'il sera éventuellement trouvable sur les internets. Donc, à garder en tête, c'est très, très beau à voir.
Très intéressant. Et bon, j'imagine que c'est plus en salle parce que Steve Carell n'a pas le don d'ubiquité et qu'il est déjà dans le Marwen.
Oui,
donc,
c'est vrai,
voilà,
c'est
incroyable. Quel acteur prolifique. Mm-hmm. André-Jean.
Oui, ben, écoutez, en ce qui me concerne, c'est plus ou moins une nouvelle aussi, c'est-à-dire que la majorité de nos cinéphiles sont des fans finis, justement, de l'audiovisuel. J'ai décidé de vous parler de l'ONF aujourd'hui, en fait, sur lequel moi-même j'ai appris, c'est-à-dire, moi-même j'ai appris, c'est comme si je savais tout de l'ONF. Oui, je suis âgé, mais pas à ce point-là. En fait, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'effectivement, l'organisme existe depuis 1939 et depuis sa création, donc jusqu'à aujourd'hui, a créé plus de 13 000 productions qui ont remporté au-delà de 5 000 récompenses, des Webby, des écrans canadiens, des Oscars, des génies, en fait. Tout ça dans une espèce de joyeux melting pot, de différents styles, c'est-à-dire de différents genres, soit de l'actualité, des documents d'actualité de 1940 à 1965, des documents d'animation, des documentaires, des films expérimentaux, de la fiction, des films pour enfants, des longs-métrages de fiction et des multimédias interactifs.
Donc, on n'arrête pas le progrès à l'ONF, là.
Non, leur site est terriblement bien développé, Jim, tu l'as dit. Écoute, ils ont même ce qu'ils appellent l'espace de visionnage qui met en ligne et gratuitement à la disposition des auditeurs plus de 3000 productions, incluant plusieurs classiques et nouveautés, et qui offrent sur demande les meilleurs films et documentaires d'opinion produits au Québec et au Canada et à l'étranger. Ça permet en fait cette plateforme-là aussi de soit acheter des films directement de l'ONF ou de faire leur location en ligne.
Oui.
Donc il y a certains films qui ne sont pas accessibles bien sûr. En fait, le ciné-club de l'ONF offre la possibilité aux bibliothèques, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, de devenir membre et de projeter gratuitement des films de l'ONF. Bon, bien sûr, je me suis renseigné, la bibliothèque Eva Sénégal est membre, bien sûr, de l'ONF, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont une banque phénoménale déjà de documents de l'ONF ou de films ou d'animations, etc. Le principe, c'est que je me renseignais parce que ce que j'avais vu, que je trouvais intéressant, c'est que c'est peut-être pas pour devenir membre, pour une bibliothèque, pour qu'elle devienne membre, il faut qu'elle fasse simplement s'inscrire Et pour s'inscrire, c'est d'organiser finalement un visionnement, une projection gratuite.
Okay.
Là, okay. Ce qu'Eva Sénégal me disait tout à l'heure, parce que je les avais au bout du...
Ouais, oui.
Ben, elle est un peu comme ça, hein, particulière, mais quand même intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont réduit leur salle de visionnement pour les groupes de 2 à 5 individus. Il leur en reste seulement une, mais ils ont toujours des locaux qui peuvent sous-louer, en fait. Donc, ça,
okay.
Moi-même, je lance ça comme ça dans l'univers. Je ne prendrai pas des engagements que je ne pourrais faire. Mais j'ai vu des choses qui sont vachement intéressantes, excusez-moi l'expression, et je serais peut-être du genre à dire, je m'organise des visionnements. Tout ce que j'aurais à assumer, c'est la location de la salle, en fait, puis faire une publicité pour vous... pour intéresser le public.
Ben oui, c'est très intéressant. On pourrait, Cinébrunch pourrait organiser les visionnements de films de l'ONF éventuellement.
Ben, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai des choses qui me turlupinent. On en reparlera bien sûr. En tout cas, pour nos auditeurs qui voudraient peut-être aller se rincer l'œil, le site, en fait, c'est ONF-NFB, parce que bien sûr, National Film Board, .gc.ca. Donc, c'est le site sur lequel vous allez pouvoir trouver leur ciné-club, leur espace de visionnage et tout ce que vous désirez savoir et en même plus sur l'ONF.
Ben écoute, merci beaucoup André-Jean.
Ça fait plaisir.
Fort intéressant. Et de mon côté, parce que bon, visiblement, vous ne vouliez pas parler de nouvelles, j'en ai quelques-unes pour vous. Donc, on va parler de quelques scandales et d'éclaboussures, notamment Woody Allen, qui est souvent nommé dans des histoires plus ou moins sales au niveau sexuel. Ben cette fois-ci, on apprend que le film Manhattan, pour bien le prononcer, serait probablement inspiré d'une histoire d'amour tordue entre Allen et le mannequin Christina Engelhardt, alors qu'elle avait 16 ans et Woody Allen, 41. Elle dit n'avoir jamais été abusée, avoir été très en amour avec lui et n'avoir aucun regret aujourd'hui parce que ça l'a forgé sa personnalité et sa vie. Cela dit, on rappelle que le film Manhattan qui a été fait en 1979 traite d'une histoire d'amour entre un homme de 42 ans et une jeune fille de 17 ans. Il y a une similarité évidente. Là, dans
on
le...
reste dans le mineur. Hein?
Exactement.
C'est toujours aussi controversé. Sacré Woody.
Et dans une toute autre nouvelle, on ne peut pas faire abstraction du décès de l'actrice et réalisatrice Penny Marshall, qui est une pionnière du monde du cinéma encore aujourd'hui, qui est majoritairement occupée par des hommes. Penny Marshall est la première femme à avoir récolté plus de 100 millions de dollars avec un film. Elle est morte à l'âge de 75 ans cette semaine. Donc voilà, un salut à Madame Marshall.
Oui.
Voilà.
Chapeau bas.
Voilà. Et voilà, ben c'est votre Cinébrunch de Noël qui commence. Mélina, tu es cette semaine allée voir un film au cinéma, un film avec un acteur et réalisateur qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps.
Oui.
Qui est-il?
Il est Clint Eastwood. Donc, le monsieur est assez âgé, mais donc il a décidé de faire un autre film. En fait, c'est pas son scénario, c'est le scénario de quelqu'un d'autre et c'est un scénario qui est inspiré d'un fait vécu. Donc, ça racontait en fait la vraie histoire de Leo Sharp, donc qui est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, qui est devenu une mule carrément pour un cartel de drogue, donc il passait de la drogue dans sa voiture. Donc, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Et là, ils ont fait un scénario avec ça, puis là, Clint Eastwood a dit « Ah, je vais réaliser ça et je vais interpréter le rôle du monsieur ». Donc, c'est ça qu'il a fait. Donc, le film s'appelle « La mule » de Mule, et on va aller écouter la bande-annonce.
Vous avez besoin d'aide, monsieur?
Oh, bonjour, lieutenant.
Besoin d'aide?
Rien n'est plus important que la famille. Ne faites pas comme moi. J'ai fait passer le travail avant la famille. J'ai été un père lamentable. Un mari lamentable. J'ai tout gâché. Tout ce que je peux dire, c'est que je regrette.
Eh bien, très visuel, évidemment, comme bande-annonce. Mm-hmm. La scène de la voiture là, était assez intéressante. Mm-hmm. Et puis, voilà. Donc,
oui, voilà, la mule de Clint Eastwood. Donc, M. Eastwood joue le rôle de Earl Stone, qui est âgé de 80 ans et qui est fauché. En fait, il n'y a plus d'argent. Sa famille, il n'est pas en bon terme avec sa famille à cause qu'il a raté de multiples événements, mettons des mariages, des choses comme ça. Donc, sa famille ne l'aime pas vraiment beaucoup. Il est sur le bord de perdre sa compagnie et sa maison. Et sans savoir, il se fait proposer d'être une mule. C'est-à-dire que quelqu'un lui dit « Ah, vous cherchez de l'argent? Ben, dans le fond, je connais des gens qui engagent. Vous avez juste à transporter des trucs. » Lui, il ne sait pas trop c'est quoi. Hein, il est quand même assez âgé, le bonhomme. Et donc, il se met à transporter de la drogue. Mais vu qu'il n'a pas du tout le profil, il se fait jamais arrêter. Parce que c'est un monsieur de 80 ans qui écoute de la musique country dans son auto. Donc, il se fait jamais prendre, en fait. Donc, il commence à transporter de plus en plus de grandes quantités. Et là, ben, il y a la DEA, donc ceux qui s'occupent de la drogue, qui décident, ben, qui voient, en fait, les chiffres. Ils veulent donc arrêter puis résoudre ce problème-là. Et c'est assez intéressant parce que le monsieur de la DEA est joué par Bradley Cooper. Donc, un grand monsieur. Il est quand même bon dans son rôle. Je veux dire, c'est un bon acteur. C'est pas phénoménal. Moi, je l'ai vu récemment dans Une étoile est née, le film qu'il a réalisé lui-même avec Lady Gaga, qui était vraiment impressionnant. Ouais, ouais. C'était pas au niveau de ça, mais c'est bien. Donc, c'est un peu ça le résumé de l'histoire. C'est assez simple. Le fait que ce soit inspiré d'un fait vécu, ça rend ça quand même très crédible. Ça reste un film qui est quand même captivant. Le scénario, il est quand même prévisible. C'est un peu ça qui est dommage avec ce film-là, c'est qu'on sent où on s'en va, mais on sent pas la tension, on sent pas le mystère. C'est-à-dire que j'étais pas assis au bout de ma chaise à me demander « Ah, qu'est-ce qui va se passer? » Le rythme est un peu lent, des fois, je me tournais un peu les pouces. Donc, c'est pas un film qui est venu me chercher. C'est définitivement pas un film qui m'a touchée au niveau émotionnel. Donc, mais sinon, ça reste que c'est bien. Je veux dire, c'est un bon film, le scénario est intéressant, les personnages sont bons, les acteurs sont crédibles, on comprend bien l'histoire, c'est beau visuellement, la musique est intéressante. Donc, c'est pas un mauvais film. Si vous aimez le monsieur, allez le voir. Moi, j'y donne un...
non, mais c'est ça, c'est monsieur un Eastwood. Certain âge, on dit.
Oui, oui quand même. Mais il a pris un coup de vieux, là. Oui. Ils ont dû le vieillir un peu dans le film, mais il a plus son teint de jeunesse, disons.
Non, c'est ça, il a plus son teint de jeunesse, puis il reste quand même fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'il ouvre pas beaucoup la bouche quand il parle. Il dit ses lignes, puis on voit jamais, jamais sa bouche, là. On voit toujours juste ses dents. Fait que,
c'est comme un ventriloque.
Ben, un peu, mais c'est... Okay.
Ah, ben, on voit ses dents, mais on voit pas sa bouche.
Mais je veux dire il parle entre ses dents. Genre, ouais. C'est très dur à imiter.
Okay, il n'est pas très éloquent, très expressif. Okay.
Exactement.
Comme les ventriloques, un peu.
Une mimique de cow-boy,
mais
en
c'est
fait.
C'est ça, exactement.
Mimique de cow-boy. Mais non, mais c'est ça, tu sais, un flegme, c'est ça. Un peu sud-américain. En fait, ce monsieur-là vient d'où? Ça va dans le personnage un peu, en fait.
Le monsieur...
Earl, en question, le personnage, je veux dire, qui joue?
Midwest.
Midwest,
ouais.
Okay.
Ouais. OK. Dans ce style-là, mais c'est pas très clair parce qu'il est tout le temps sur la route. Il dit qu'il a fait 41 états sur 42. Okay. Je ne sais pas trop ce qu'il transportait dans sa véritable compagnie, mais il transportait des marchandises ou des choses comme ça.
D'après moi, il n'est pas allé en Alaska ni à Hawaï.
Probablement, ça doit être ça, les états qui lui manquent.
Très difficile au niveau du transport.
Ouais,
c'est mon opinion.
Peut-être. Mais c'est ça, si vous êtes des fans de Clint Eastwood, ben, allez voir le film. Je veux dire, il est fidèle à lui-même, il est égal à lui-même. Moi, ça n'a jamais été un réalisateur sur lequel j'ai trippé. C'est jamais quelqu'un qui m'a fasciné. Je veux dire, il n'est jamais venu me chercher. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment vraiment beaucoup. Donc, si vous l'aimez, allez le voir. Sinon, ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est triste à dire, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Ça m'a pas touchée. C'est sûr que dans les deux, trois dernières semaines, j'ai vu des films qui étaient extrêmement touchants, qui étaient extrêmement profonds, qui étaient des films coup de poing, qui venaient nous chercher à un niveau émotionnel. Là, on est comme dans l'inverse de ça. Fait que j'ai pas senti c'était quoi le message derrière le film. Ça m'a pas touchée. C'est pas un film que j'ai ramené chez moi. Donc, 7 sur 10, c'est correct, c'est bien. C'est un divertissement...
OK. Voilà. Probablement un des derniers films de Clint Eastwood, donc
probablement,
de l'intérêt.
Probablement.
Parce que là,
non, peut-être dans quelques, c'est ça, dans quelques années, peut-être que tu vas dire « J'étais là, je l'ai
c'est
vu ».
Parce que le dernier film dans lequel il a été acteur, ça remonte à 2008-2009, donc ça fait déjà une dizaine d'années qu'il ne jouait pas de rôle. Donc voilà, effectivement, c'est peut-être son dernier rôle. Mm-hmm. J'espère pour lui qu'il y en aura un plus flamboyant comme dernier.
Ouais, ça finit un peu mal la carrière,
tu veux dire. C'est bien, il est bon, mais je veux dire... On reste dans le style, on réinvente rien, là, okay. Ça c'est sûr.
Excellent. Et c'était écrit et réalisé par lui-même, je pense, c'est ça?
Ou réalisé? C'est réalisé par lui-même.
Réalisé par lui-même.
Ouais, inspiré de faits vécus.
Oui, okay. Exactement.
Et tu donnerais combien?
7 sur 10.
7 sur 10? OK.
7. 7. 7. 7 sur 10. Un petit 70
%, c'est okay.
ça.
Un petit 70, c'est au-delà de passage quand même.
C'est donc, ça.
OK, voilà. On y va quand même si on aime Clint Eastwood.
Ben, c'est ça.
Voilà. Ou et le style...
Ou les dents du Texan.
C'est voilà. ça. Puis, voilà. Okay. Les dents qui sont bien belles, sont bien blanches, ces dents. C'est bon.
Voilà. Excellent.
Les belles perles.
Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
Merci.
André Jean, tu as été au garage cette semaine.
Ah. Oui, effectivement. Ben en fait.
Ah oui, toi, fais
très
ça.
Bon. Non, en fait, je suis pas allé au garage. Personnellement, bien sûr, certains l'ont compris. C'est un peu une blague que je me fais parce que, bien sûr, le film que je suis allé voir pour vous, c'est Mécanique Fatale ou Mortal Engine pour les fans de traduction anglaise.
Oui. Donc, c'est un calembour à la Louis en hommage.
Oui. Oui. Ah, ben voilà. En hommage donc, à Louis qu'on salue d'ailleurs.
Oui, tout à fait, Louis.
Salut Louis.
Donc, c'est ça, un film de fiction post-apocalyptique américain, en fait, qui est en salle à la Maison du cinéma depuis le 14 décembre. Réalisé par un certain Christian Rivers, un dessinateur et un technicien d'effets spéciaux qui est tout nouvellement, c'est-à-dire réalisateur. En fait, c'était un Néo-Zélandais, le monsieur, qui a travaillé sur... Ben, en fait, on le connaît pour son implication dans les effets spéciaux ou les différents effets visuels des deux séries, là, Le Seigneur des Anneaux et bien sûr Le Hobbit. Il s'est beaucoup impliqué là-dedans. Par contre, c'était pas au niveau de la réalisation. Lui, il était vraiment dans les effets spéciaux.
Ce qui était quand même sensationnel, là, disons-le.
Oui, non, mais c'est ça qui arrive. Oui. Vous allez voir, ma critique en est éteintée quand même.
Oui.
On a, en fait, une belle brochette d'acteurs. C'est très multiculturel, je dirais. Hein, donc, un anglo-australien qui est Hugo Weaving, Stephen Lang, l'américain, bien sûr, Robert Sheehan, l'irlandais, Joel Tobeck, le néo-zélandais, Hera Hilmar, l'islandaise, bien sûr, et Jiha, la sud-coréenne, qui est en fait une chanteuse, entre autres aussi, chanteuse et actrice, etc. Et je vous invite donc à écouter la petite bande-annonce.
J'avais 8 ans quand ma mère est morte. Elle avait trouvé quelque chose. Quelque chose qu'il voulait. Il m'aurait tué, moi aussi. Mais je me suis enfuie.
Qu'est-ce que tu feras lorsque tu trouveras Esther Shaw?
Je la tuerai.
Il est ici.
On n'est pas du tout là au garage, finalement.
Non, mais non, pas du tout, effectivement. Écoutez, ben, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous venez d'entendre la bande-annonce, bien sûr, de Mécanique Fatale ou Mortal Engine, comme je disais. Je vous envoie le synopsis. Comme vous l'avez pu l'entendre dans la bande sonore, c'est assez visuel aussi, bien sûr, mais il y a un gros développement potentiel qui, à mon point de vue, n'a pas été suffisant. En fait, j'y vais avec le synopsis. Donc, on est dans le post-apocalyptique, comme je vous disais. Les survivants de la guerre des 60 minutes se sont regroupés sous deux doctrines. Donc, le darwinisme municipal, qui implique des villes prédatrices mobiles, donc qui sont sur roues, et la ligue anti-traction, qui sont des villes fixes, un petit peu comme on l'a aujourd'hui, hein, une ville normale, en fait, derrière un mur bouclier qui est établi à la frontière de l'Asie et de l'Europe, finalement, ou du Moyen-Orient, en fait. Qui bloque les Outlands, ou ce qu'on dira le terrain de chasse, en fait, des villes prédatrices, à cette zone-là où on vit dans une autre... philosophie, dans une autre doctrine, si on veut. Donc, dans ce monde post-apocalyptique, l'adolescent Tom Natsworthy, qui est un banni de Londres, en fait, un étudiant un stagiaire, en fait, en archéologie, en fait, à cette époque-là. Déjà, on est dans un futur phénoménal, là, donc c'est assez spécial d'utiliser cette référence-là d'archéologie. Et une jeune femme, bien sûr, qui est la fameuse Esther Shaw, qui est une jeune femme qui est venue, elle, du terrain de chasse, des Outlands, en fait, découvre un élément qui pourrait changer l'ordre du monde et ta-ta-ta. C'est dans le film. Voilà. Ben, je voulais y aller avec quelque chose de plus... Mais y a, c'est ça.
C'est, on est... pas... ouais.
C'est assez intense. Je dois vous avouer, c'est difficile de commenter le film dans le sens où il y a eu un défi incroyable à faire dans cette histoire-là. C'est-à-dire que, là, moi, c'est le premier film réalisé par le fameux monsieur là, Christian Rivers, en néo-zélandais, hein, je ne sais pas mon accent. J'ai pris un accent anglais, mais bon. Oui. Donc,
c'est proche de l'Australie.
Direction de la photographie avec des plans de vue qui sont étourdissants par la démesure de leur contenu. On est dans un univers surréaliste où, imaginez là, une ville comme Londres, hein, qui a plusieurs en fait, millions de citoyens, mais qui est maintenant sur roue et qui se promène et qui va ingérer comme ça hein, des plus petites villes qui vont lui tomber sous son emprise, en fait. Qu'elle va poursuivre et chasser dans ce terrain. C'est absolument phénoménal.
C'est fou. Moi, ça me fait penser à un film du studio Ghibli rencontre Star Trek. Je ne sais pas pourquoi, il y a comme une espèce de... Ouais.
Je dirais que c'est assez spécial parce qu'on reste sur la Terre, mais une Terre qui a été dévastée, bien sûr, par, comme je le disais, là, la guerre des 60 minutes, là, où la technologie a renversé l'homme, entre guillemets, finalement. Et là, les survivants se retrouvent à être soit dans des villes, soit à être des mendiants. On est dans une quête de carburant, quête de carburant autant pour mobiliser les villes que pour se nourrir comme citoyen aussi. Vous devriez voir toutes les... En tout cas, c'est à voir les goulaches qui sont servis dans ce film-là. Les ressources protéiques sont assez rares, c'est ça.
Il y a du soleil vert dans cette histoire.
On va pas... Voyez-vous, c'est des choses que j'aurais aimé ça qu'on développe des fois un petit peu. Les effets spéciaux, c'est inquestionnable, OK? C'est simplement époustouflant.
OK.
Qualité technique vraiment irréprochable. Je veux dire, Jim, tu faisais référence, là, les deux séries dont je faisais référence tout à l'heure, Seigneur des Anneaux et le Hobbit,
d'effets spéciaux, là.
C'est puissant et on reste à ce niveau-là au niveau des effets spéciaux. Par contre, le défi est presque parfaitement atteint par rapport à l'établissement de la situation initiale et au développement. On continue à développer la situation initiale tout au long du film, que ce soit durant l'intrigue et pendant le développement aussi, ce qui n'est pas nécessairement perturbant, ça coule quand même assez bien. Cela dit, je trouve que ça manque, il y a certains petits manques. Un jeu d'acteurs qui nous permet aisément de suivre les deux protagonistes principaux, mais on passe un peu à côté des autres personnages que j'aurais personnellement bien aimé avoir vu, c'est-à-dire un peu plus développés. Des personnages qui sont inévitablement complexes et intéressants. On parle entre autres d'une chasseuse, là, la fameuse Gia, incarne une chasseuse de primes, sur laquelle il y a bien sûr une tête, sa tête a été mise à prix. Il y a un autre personnage qui a élevé aussi la fameuse Esther Shaw, que j'aurais aimé aussi qu'on développe un peu. Qui sont ces fameux... résurrecté. En fait, je ne donne pas plus de nouvelles. Personnellement, c'est un film qui... Moi, je trouve, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film de science-fiction que je dirais qui coule, hein, qui est intéressant à aller voir. Je dirais vraiment, le monde est crédible. Ça me rappelle des bons films de science-fiction, en fait, comme il y a longtemps, en fait. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu qui m'intéresse. Celui-là m'a plu beaucoup. Je donne un 9 sur 10.
Wow. Oh, quand même!
Honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un film de science-fiction qui me donne le goût de... Je dirais que le développement, il me semblait un peu long, comme je disais, puis en même temps... C'est difficile parce que l'échelle de démesure des villes et le détail de comment les citoyens vivent. Comme je dis, c'est difficile de faire la part des choses entre les deux. Puis en même temps, je comprends parce que c'est un film quand même de 2h04, je crois. Ça aurait pris un petit moment aussi. Puis si on avait voulu développer particulièrement chaque personnage pour avoir un peu plus de détails, ce que moi, j'aurais apprécié parce que les deux protagonistes principaux sont bien intéressants. Puis ça nous permet, en focusant sur eux, on peut suivre une histoire qui a un début, une fin, une intrigue, etc., qui est quand même stimulante. Là. Mais c'est ça, j'aurais aimé ça, qu'on développe encore un peu plus sur cet univers-là. Et ça fait longtemps.
Suite à ça?
J'en ai aucune idée, mais je vais porter attention à la chose parce que personnellement, je dois avouer, je ne sais pas comment la critique l'a reçue vraiment. Je pense que c'est somme toute positif, mais... C'est ça. J'aimerais que qu'il y ait une suite dans cet univers-là.
Je te le souhaite, André-Jean. Je le souhaite fortement. Et malgré la bande-annonce qui m'avait un petit peu moins intéressé, moi,
je vais te tuer. Oui,
ça m'avait pas vraiment allumé.
J'ai pas eu le choix de le mettre parce que c'est un personnage que j'aurais aimé savoir un peu plus sur le truc. Mm-hmm. On apprend.
Pourquoi il arrive puis il dit ça puis il s'en va, on le voit plus dans le film.
Ouais, ben il a été capturé en tout cas puis il se fait. Je veux pas vendre de punch là. Moi je dirais allez le voir, Auditoire en délire. Le principe c'est que vous allez comprendre probablement comme moi vous allez avoir cette idée-là de ok j'aurais aimé ça en savoir encore plus sur cet univers-là. Qu'est-ce qui ça a été quoi exactement la guerre des 60 minutes? Développer un peu plus en tout cas. C'est ça. Je nous le souhaite tous en fait à nous et à l'univers qui est une suite dans cet univers-là en fait.
Mais merci beaucoup André-Jean.
Un plaisir.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti.
Les sorties cette semaine. Aquaman, un nouveau film de super-héros de l'univers DC Comics.
Mon père était gardien de phare. Ma mère était reine. Parfois, la vie crée des alliances inattendues.
Tu pourrais unir nos mondes un jour.
Vous avez vu ça? Voilà qu'Arthur parle aux poissons.
Le film de science-fiction Bumblebee, un spin-off de la série des Transformers.
Ils font venir une armée.
J'ai pu voir ce que sont réellement ces choses.
Bumblebee, il n'y a qu'un moyen de mettre un terme à ce conflit. Tu dois protéger la Terre et ses habitants.
Mettons en vedette Steve Carell, le film Bienvenue à Marwen raconte la véritable histoire d'un homme qui, après avoir été sauvagement attaqué, crée la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale.
On m'a battu et laissé pour mort, pour aucune raison.
Un pied devant l'autre. Tu l'as, c'est ça, continue. Accepte la douleur.
Mais j'ai créé un monde pour me soigner.
Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Bienvenue à Marwen. C'est mon installation artistique.
Vous êtes artiste?
C'est une histoire compliquée.
Racontez-moi.
Ça vous intéresse vraiment?
Oui.
Le retour de Ben est un drame familial dans lequel Julia Roberts joue la mère d'un jeune adulte toxicomane qui vient passer le réveillon de Noël avec sa famille.
Oh mon Dieu, j'arrive pas à le croire!
Salut maman!
Est-ce que c'est vraiment toi?
Est-ce que c'est Ben?
C'est clair qu'il va beaucoup mieux.
Alors pourquoi tu sens le besoin de tout cacher?
On s'est juré qu'on ne referait pas les mêmes erreurs, tu te souviens?
Je suis d'accord. Sauf que là, c'est Noël. On t'accorde une journée. À la même heure demain, tu retournes au centre.
Dans l'Angleterre du 18e siècle, la favorite raconte l'histoire de deux cousines qui font toutes sortes de coups afin de devenir la favorite de la reine Anne.
Très chère reine, mais vous êtes folle. Allez m'offrir un palais. Ceci est une monstrueuse extravagance, Madame Morlaix. Nous sommes en guerre.
Nous avons gagné.
Oh, elle n'est pas finie, nous devons continuer.
Oh, je l'ignorais.
Alain est un homme d'affaires très occupé. Il est un jour victime d'un accident cérébral qui entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.
C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées.
On va faire quelques tests.
Héliotrope, mardi, mercanti.
Bon, rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse.
Oh, je te lèche. Faut que j'aille voir la psychopathe.
Passez, allez.
Quand vous vous souvenez pas d'un mot, essayez par un autre moyen. Un cheval qui court, on dit qu'il...
Salope.
Presque. Vous vous sentez comment aujourd'hui?
Je veux partir d'ici.
Bonjour, monsieur. Vous avez l'air en pleine forme.
Au revoir, madame.
Michel Oslo, réalisateur de Kirikou, nous propose un nouveau film d'animation, Dilidi à Paris.
Ma première journée dans Paris! C'est extraordinaire! Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur!
Une autre fillette enlevée! Les malmaîtres ont encore frappé!
Nous percerons le mystère des malmaîtres.
Entendu. Je connais beaucoup de monde.
Monsieur Pasteur, que savez-vous des ravisseurs de fillettes?
Rien, hélas. Si ce n'est une rumeur.
Merci, Mélina. Vous êtes toujours à l'émission Cinébrunch et aujourd'hui, dans un 6-7 minutes, on va discuter tous ensemble de nos suggestions de films pour le temps des fêtes, pour Noël qui s'en vient dans quelques jours. Mais juste avant, je vais vous parler d'un film que j'ai été voir. Je vais critiquer le film En Liberté, une comédie dramatique française qui a été coécrite et scénarisée par Pierre Salvadori, qui nous avait donné l'excellent Hors de prix en 2006 avec Audrey Tautou.
Oui,
oui, oui, un film
quand même assez intéressant.
Oui,
oui,
oui, oui.
Moi, j'avais beaucoup aimé le film.
Oui, c'est vraiment bon. Puis on reconnaît son style dans ce film-là, encore une fois. Le film met en vedette la très jolie Adèle Hanel, Pio Marmaille, qui est le personnage principal dans le film Retour en Bourgogne.
Oui, 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 je me souviens.
Tu te souviens? Audrey Tautou, que j'ai pas besoin de nommer, mais c'est la troisième fois en fait qu'elle joue dans un film réalisé par ce réalisateur. Donc c'est quand même une association intéressante. J'ai pas vérifié si c'est un couple ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, curieux. Ainsi que Damien Bonnard et Vincent Elbaz qui jouent un personnage un peu sensationnel dans ce film-là. Le film En Liberté, qu'on vend comme la comédie de l'année. Est-il à la hauteur de sa réputation? C'est ce que vous saurez après cette bande-annonce.
Il était fort, papa.
Mais vous êtes qui?
Le comptable de la bijouterie Masséna. Votre diamant brut, c'est moi qui l'ai refilé à Jean.
Putain! Jean, c'était un ripou.
Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable.
Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison.
Tu m'excuses, je vais chercher les cigarettes. Je reviens dans 5 minutes.
Tu vas encore avoir mon tournage. T'as vu que t'es dans le voilà, t'es dans le mal, comprends pas ce que vous.
T'as pas parti dans le voilà, tu dois t'allumer.
On a utilisé des camels.
Donnez-moi.
Yvonne, ça va? Il va bien, le gars. Il a fait de la muscu. Il a...
Donc, le film En Liberté, beaucoup de gags visuels dans le film. La bande-annonce le rend peut-être peu. Hein? Plus musical, la bande-annonce, peut-être, certains diraient.
Oui, un peu.
Bon, allons vérifier. Je dirais qu'on mélange assez bien le drame et la comédie dans cette comédie romantique, dans cette comédie dramatique plutôt, avec un jeu d'acteurs variable selon les situations. Donc, parfois très sérieux, très crédible, parfois totalement absurde et justement pas crédible. L'histoire du film, bon, je vais être bref. Suite à la mort de son mari Jean, Yvonne raconte tous les soirs à son fils Théo les exploits du policier qui était son père. Elle-même policière, elle découvre malgré elle que son défunt mari était en fait un tout croche et que non seulement il fricotait avec des crottés, mais en plus, il a participé à un coup monté mettant un innocent en prison dans une histoire de cambriolage de bijouterie. L'innocent en prison, Antoine, vient de terminer sa peine de 8 ans et devient libre. Évidemment, Yvonne, dépitée par ce qu'elle vient d'apprendre et se sent grandement coupable, veut s'approcher et aider Antoine qui, terriblement affecté par ses 8 ans de captivité, a un comportement totalement inapproprié et dangereux. Et violent, et toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de sens. Il se parle tout seul, puis il a pété les plombs comme il faut. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est qu'on a évité complètement l'histoire d'amour typique et qu'on offre quelque chose de beaucoup plus confus, de beaucoup plus... bizarre, et je pense que c'est vraiment le style du réalisateur parce qu'on se souvient de la relation tordue entre Audrey Tautou et Glad Elmaleh dans le film Hors de prix. On est un peu dans ce genre de monde-là où on a d'une part des gens très amoureux, mais de l'autre part des gens très détachés, et ça crée des ambiances intéressantes et dans ce cas-ci, des triangles amoureux un peu bizarres. Donc voilà, donc c'est on pourrait dire que c'est un point plutôt positif. Le concept de la récurrence dans ce film-là est intéressant. L'histoire que Yvonne raconte à son fils évolue au fil du film à mesure que le rôle de son père change selon les états d'âme donc de ce qu'elle découvre sur son ancien mari. Donc ça, c'est quand même intéressant. On dit que c'est la comédie de l'année, mais pour être très honnête, ce film-là me semble pas si drôle que ça. Il y a des moments extrêmement drôles dans le film, mais en lui-même, le film est pas si drôle que ça. Je dirais que le gros point faible de ce film-là, c'est qu'il ne se porte pas justement lui-même. Les interactions entre les personnages sont intéressantes, le côté absurde, le côté un peu Ionesco dans les dialogues répétés, donc quelqu'un vit quelque chose et on voit l'autre personne vivre la même chose, mais sans qu'il s'en rende compte. Bon, des choses comme ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a des exercices de style, là, dissimulé dans le film, mais sinon on a un petit peu l'impression de passer d'un film à l'autre. Donc, la comédie d'un côté et un drame de l'autre, plutôt que de vivre pleinement un seul film bien ficelé, complet. Donc, ça c'est un point faible du film. C'est un bon divertissement. Toutefois, le film arrive à peu près en même temps qu'Au revoir là-haut en 2017. En 2017, qui se voulait la comédie dramatique pour le temps des fêtes. Donc, je vais être honnête avec vous, avec Mary Poppins, Aquaman, Bienvenue à Marwen, Un homme pressé, Le retour de Ben, Kirikou à Paris, qui viennent d'arriver, et La course des tucs, Le livre de Green, Spider-Man, Les crimes de Grindelwald, ouais, qui sont toujours là. Bref, avec un choix considérable de films au cinéma pour le temps des fêtes et pour Noël, est-ce que ce film-là va marcher? J'en doute fortement. Donc, en liberté, je lui donne un 8 sur 10. C'est quand même un bon film. Simplement, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas ficelé comme un grand film, mais il y a des moments assez hilarants dans ce film-là, puis à plusieurs niveaux. Donc, on peut quand même en profiter, on peut s'amuser. Mais est-ce que c'est la comédie de l'année? J'en doute fortement.
Mais c'est pas inspiré. Ça passe pas bien, finalement, de la comédie au dramatique, parce que moi, les comédies dramatiques françaises, la plupart du temps, ça tourne dans le... dans un bel équilibre qui fait qu'à la fin, t'as ri, t'as pleuré, tu sors avec une espèce de...
Ben, le meilleur exemple de film que je pourrais donner qui me fait penser à ce film-là, ce serait le film Wasabi. Ou le film, si vous ne connaissez pas, le film Yamakasi.
Yamakasi,
qui sont les gens qui font du parcours. C'est des comédies dramatiques. Donc, c'est léger, mais il y a quand même une part de drame. Donc, on veut sauver un enfant ou sa fille, sa fille est morte. Puis là, faut qu'on... Bon, peu importe lequel des deux films on parle, c'est des films qui s'écoutent très bien. C'est léger, c'est facile. Bon, on s'entend que Jean Reno, ça fait pas des films très, très lourds en général, quoi qu'il y ait eu récemment des bons. Mais dans ce cas-ci, on est dans un film un peu comme ça. Il y a des moments très drôles, il y a des moments touchants, mais c'est pas un masterpiece. On n'est pas dans Les Intouchables. Dans, justement,
Ça coule pas, pas, ça coule pas assez bien d'un à l'autre. Non. Comme tu dis, il y a vraiment cette séparation-là.
Non, puis c'est pas suffisamment drôle pour être une comédie à part entière. Donc,
comédie
c'est ça,
de l'année à ce moment-là.
Okay. Ben, ouais, non. C'est ça. C'est ça.
On a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Ben, c'est ce que je trouve. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait pas pour vendre un film? Donc,
mais t'as dit 8. 8 sur 10 quand même.
Oui, 8 sur 10. Je pense pas que quelqu'un va s'ennuyer en voyant ce film-là. C'est intéressant. Il y a des éléments de style intéressants. Mais bon, c'est ça.
Ça touche clairement pas la même clientèle qu'Aquaman ou
Je sais pas. Écoute, je vais être très honnête avec toi. Je suis allé quand même très tôt. Je suis pas allé très longtemps après la sortie du film et on était trois dans la salle.
Wow.
Et j'étais un mardi soir.
Oh. Oh, oh.
Qui est pourtant le moment le plus achalandé au cinéma normalement.
Ah oui, mais tout le monde était avec moi en train de voir Monsieur Eastwood la mule. Oui.
Ben c'est ça. Ben écoute, c'est peut-être ça qui s'est passé. Mais
les gens sont allés sur la réputation.
C'est bizarre. D'habitude les films français ça marche là.
Ouais. Mais encore, ça vient de sortir à peine. Fait que c'est,
On va lui donner une chance, mais j'ai comme l'impression que les gens vont se garrocher rapidement sur Aquaman et ce genre
de film. Le livre de Green, en tout cas, est un excellent exemple d'une comédie dramatique bien réussie.
Oui, tout à fait.
Si je peux revenir là-dessus, parce que j'ai vraiment trippé sur ce film-là. Ouais, que peut-être entre les deux, moi, je vous conseille... je n'ai pas vu, en fait, le film de Jim, mais en liberté, mais je vous conseille quand même.
Faites-vous un billet. Allez voir les deux. Puis, donnez-nous votre idée.
Prenez une journée, allez voir tous les films au cinéma. Après, faites votre propre critique.
Ah, ça, c'est toujours le fun à faire.
Oui.
Oui, c'est ça. Puis
revenez-nous là-dessus. Attention à la soie dentaire, par contre, parce qu'à force de manger du popcorn toute la journée, ça finit par coincer dans les interstices, comme on dit. Voilà.
Ces fameuses interstices. Donc... Merci beaucoup, Jim. Merci de cette critique.
C'est maintenant le moment de parler de notre suggestion, de nos suggestions de films pour le temps des fêtes. Et pour ce faire, Cinébrunch, on innove chaque fois, toujours plus loin, toujours plus haut. On essaie toujours de développer de nouvelles manières de s'approcher de notre public. Et cette semaine, on a décidé de faire un party en studio. Oui. Et on a deux invités, pas un, deux invités. Donc, Ariane et Sam qui sont avec nous, qui vont nous parler et qui vont embarquer dans notre discussion sur les films pour Noël. Donc, hein, on a la chance d'avoir encore plus de monde à Cinébrunch et de toute beauté. Hein. Et si autant de gens venaient sur notre page Facebook que de gens en studio, on aurait le double de gens sur notre page Facebook.
Oui, c'est dans l'effet,
Jim. Incroyable. Bref, voilà, on va commencer ça. Normalement, pour ces affaires-là, j'aime bien tirer des dés, mais je les oublie systématiquement.
Oui,
et,
effectivement.
On va y aller... comme vous voulez. Alors, le premier qui a envie de parler de sa suggestion de film se lance.
Je peux y aller.
Moi, je te laisse. Vas-y, Mélina, attaque.
J'attaque. Moi, en fait, le film que j'ai choisi, je pensais que c'était un film de Noël jusqu'à temps que je le réécoute il y a un mois environ avec Jim en disant « Regarde, ce film-là, c'est un film de Noël, ça va être super bon. » Puis finalement, à la fin du film, il m'a dit « Oui, mais ça se passe pas du tout à Noël. » Oui, mais pour moi, ça reste un film, quand même un film de Noël. C'est un film qui est sorti en 2000, donc voilà déjà 19 ans, 18 ans. Ça met en vedette Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Terry Polo, Blythe Danner et Nicole DeHoff. Le titre québécois du film, c'est « La belle famille ». En anglais, c'est « Meet the parents ». Donc voilà, c'est l'histoire d'un gars qui est joué par Ben Stiller qui vient pour demander sa blonde, hein, sa copine, en mariage. Et au même moment, il reçoit un appel de sa sœur qui lui dit « Oui, mon copain vient de me demander en mariage. Oui, il a demandé à papa, il a accepté. » Et là, le gars se dit « Ah non, avant de demander alors à ma copine de l'épouser, je vais rencontrer son père et lui demander de me donner la main. » de sa fille, voilà. Donc, ils décident d'aller rencontrer, ils vont rencontrer la famille, en fait, et là, toutes sortes de situations comiques se passent. Mmh. C'est un film qui est extrêmement drôle. Pour moi, c'est associé à un film de Noël, j'ai aucune idée pourquoi.
Ce que j'aimerais vraiment comprendre.
Parce que salut dans le temps des fêtes.
C'est ça, avec la famille.
C'est même pas dans le temps des fêtes.
C'est ça, c'est même pas dans le temps des fêtes.
Ils se baignent dans une piscine.
Oui.
Puis,
Il y a absolument rien à voir dans ma tête. Il allait rencontrer les parents pour Noël, mais finalement, il va les rencontrer pour... les fiançailles de la belle-sœur, en fait. Donc, je sais pas pourquoi c'est associé à un film de Noël dans ma tête, mais oui, on a la famille, on a des repas, on a des situations malaisantes, inconfortables, donc tout ce qui représente Noël, en fait.
C'est ça. Puis la belle-famille, déjà, ça fait Noël un peu.
C'est ça aussi. Donc, très, très drôle film qui a quand même bien vieilli. Les situations qui se passent restent quand même très divertissantes. Il y a eu deux suites à ça, beaucoup moins drôles, mais voilà, quand même. C'est souvent comme ça.
Oui, je pensais pas que tu allais prendre ce film-là, mais d'accord, c'est bien. C'est vrai que tu disais que c'est un film de Noël. Mais j'ai vraiment trouvé ça drôle comme film.
Oui, c'est ça.
Malgré tout. Là.
Puis ça avait été bien reçu à l'époque?
Oui, ça avait été bien reçu aussi à l'époque. Puis c'était intéressant aussi de voir Monsieur De Niro dans un rôle. Il garde quand même son air très sérieux et tout ça, mais c'est un bon acteur. On voit. C'est intéressant.
Ouais, De Niro dans une comédie romantique, c'est toujours agréable.
J'imagine que c'est le rôle du père.
C'est le rôle du père. Oui, c'est ça.
Du père dans la CIA.
Vive le malaise. C'est merveilleux.
Ah non, excellent. À voir si vous l'avez.
Eh bien, merci pour cette suggestion, Mélina. Donc, film qui est sur Netflix, ce film-là, je me souviens plus.
On l'a regardé, nous autres, sur Amazon Prime.
Ah oui,
vidéo.
C'est ça.
Okay.
Mais voilà, j'imagine qu'il va être à la télévision dans le temps des fêtes, vu que c'est un film de Noël. Hein.
Bien sûr, certains disent.
Une cassette, peut-être.
Voilà, oui, qui traîne dans le temps. Bêta ou autre. Donc, merci beaucoup, Mélina. Et est-ce que Sam t'a envie de te lancer?
Oui, je pourrais parler de Home Alone ou Maman, j'ai raté l'avion.
Oui.
Je pense que c'est un classique qui a marqué tous les enfants.
Oui.
Il y a eu des suites, mais je dirais que le premier est spécialement touchant. Je pense que c'est le fait que les parents ne soient pas à la maison. Mm-hmm. Surtout dans le temps des fêtes, surtout à cet âge-là. Tu penses, tes parents sont pas là, sont tout le temps en train de te dire « fais tes devoirs, fais ta chambre ». Puis là, t'es tout seul. Tous les enfants rêvent d'être, je pense, tout seul à la maison pour faire ce qu'ils veulent, dans le fond.
Libérer une tarentule.
Ouais. Exactement. Je pense que ça fait vraiment appel à genre. Puis en même temps, c'est un peu triste. Je pense qu'il y a un petit moment triste dans les Home Alone quand il réalise qu'il est tout seul. Mm. Puis peut-être que ça aussi, ça fait appel un peu aux enfants qui se font. Les parents sont occupés dans le temps des fêtes, ils doivent faire les courses. Oui. Puis en plus, on parle tellement, c'est le temps de la famille, puis tout le monde est tellement en train de courir dernière minute.
Puis ils l'ont oublié. Au final, ils l'ont oublié.
Oui. Au final, ils sont partis sans lui.
Mais oui, puis ils ont répété ça dans le deuxième en plus de ça. Ouais.
Mais ça,
c'est une autre histoire.
Pauvre petit garçon.
J'ai beaucoup aimé les deux. Est-ce que tu as aimé aussi le deux à New York?
J'ai aimé, mais je pense que le premier, il y a comme cet aspect magique de comme. Tu sais, c'est nouveau. Tandis que dans le deuxième, on s'attendait à ce qui arrive. Puis de la manière qu'ils l'ont présenté, je pense que c'était un peu comme moins crédible que le premier.
Ouais.
Puis le premier, il a encore cette innocence. Là, il est vraiment jeune. Puis je pense qu'il est comme...
Moi, c'est le monsieur avec la pelle. Il me faisait vraiment peur. Là, le voisin avec la pelle.
Ouais, oui. Corrigez-moi, c'est un peu... Lui, c'est un peu le jeune... En fait, l'acteur principal, c'est, il joue le personnage d'un jeune un petit peu problématique qui va torturer des gens qui essaient de voler l'endroit.
Il fait, disons, des pièges là, pour les...
OK, ouais. C'est ça. Il y a deux, personnes qui essaient de s'introduire. Ouais. OK, OK.
Ouais.
OK, parfait, oui.
Les casseurs flotteurs essaient de s'introduire.
Ah, les casseurs flotteurs.
C'est le nom dans la traduction française.
Oh, wow. Ça, j'étais pas au courant.
Parce qu'il est flotteur, parce qu'il ouvre les robinets. Quand on... Ils signent leur cambriolage avec l'eau qui coule. Voilà.
OK, OK. Et puis, comme tu disais, ça a été... est-ce que c'est la même chose pour toi, Ariane? C'est-à-dire le deuxième, troisième, comme tu disais, dans par rapport au film de 2009, finalement, c'est un peu moins, marqué ou intéressant que...
Oui, effectivement. Dans presque tous les cas dans les films, le premier est toujours le meilleur. Je veux dire, c'est le punchline. C'est de même que tu approches une série... comme on va revenir un peu à ce que tu disais, le Hobbit, qui est excellent comme une série. Même chose pour Le Seigneur des Anneaux, oui, merci. Mais Home Alone, le deuxième, je l'ai apprécié. Le troisième, je ne l'ai pas vu.
Ouais, en fait, le troisième.
Ça le dit exactement, tranquillement, va vite.
Moi, j'ai vu le troisième, puis c'était pas écoutable.
Ah, c'est vraiment bon.
C'est pas le même petit gars, c'est pas la même histoire, ça se passe ailleurs, puis en tout cas, c'est une affaire d'auto-téléguidée, là, puis non, c'est vraiment pas bon. Et j'ai recherché rapidement sur le sujet, c'est le même réalisateur pour le 1 et 2, et c'est le même scénariste pour les 3. Okay. Donc, ça montre vraiment que Chris Columbus est un excellent réalisateur. c'est tout ce que je peux dire.
Okay. Et on a trop étiré la sauce. Voilà,
voilà, voilà. Merci beaucoup. Et, merci. Est-ce que tu avais d'autres suggestions, Ariane, de films
Non.
C'est pas mal ça. mais c'est bien. Hein, je l'avais même noté au melon, au cas où personne le dise, parce que c'était là aussi dans mon top.
Ça a définitivement
marqué tout le monde à Noël. Ça, c'est sûr et certain. Et André-Jean, le dernier, mais non le moindre.
Moi, fidèle à moi-même. Ben non, t'as pas parlé du tien non plus.
C'est vrai.
Mais fidèle à moi-même, moi, c'est un film de 1983. Hein,
wow.
Donc, et voilà, je ne rajeunis pas.
Tu trahis ton âge, là.
Je vais le dire. À l'époque, j'avais 8 ans. C'est un film qui s'appelle Une histoire de Noël, ou A Christmas Story. Je ne sais pas si ça raconte quelque chose. C'est beaucoup plus facile à accéder, parce que j'ai essayé de tricher un petit peu sur les internets, justement. Et la version anglaise est vraiment plus aisément accessible. Mais c'est possible de le trouver en français, rassurez-vous. Donc, un film familial basé sur les écrits humoristiques de l'auteur Jean Shepherd. C'est une espèce de semi-biographie, si j'ai bien compris, avec les recherches que j'ai faites, réalisée par Bob Clark, réalisateur américain, qui a fait, entre autres, ça je connais pas du tout par contre, mais une série qui s'appelle Les bébés génies. Il a fait 2 versions, en 1999 et en 2004.
Excellent. Ça me dit de quoi, oui.
Excellent. Ah oui, okay, parfait. Moi, je ne connais pas les bébés génies. Là.
Moi, ça ne me dit absolument rien, mais visiblement, il en a fait 2.
Okay, ça a marqué mon enfance.
OK. Mais bien. Bon, mais moi, en fait, ça n'a rien à voir avec les bébés génies. En fait, le film Une histoire de Noël, c'est... j'ai malheureusement pas de trame sonore, mais c'est un film dans lequel on va suivre les exploits hivernaux du jeune Ralphie Parker, qui passe le plus clair de son temps à esquiver un tyran qui est Zach Ward, en fait, et à rêver à son cadeau de Noël idéal, soit une carabine à plomb ou une carabine à air comprimé Red Rider, excusez-moi.
Ah, mon Dieu, je sais de quel film tu parles.
Ben voilà, exactement.
Okay, je savais pas c'était ça le titre.
La fameuse carabine à plomb.
Ben oui, ça a marqué toute ma famille.
Red Rider, fréquemment contrarié par son père grincheux, mais réconforté par sa mère passionnée, Ralphie a du mal à se rendre au jour de Noël avec ses lunettes et ses espoirs intacts, parce que tout le monde le menace tout le long du film. En fait, même quand il va faire sa demande du cadeau de Noël au centre d'achat, il va s'asseoir sur les genoux du Père Noël, et même le Père Noël lui dit « Mais tu vas te crever un œil avec ça. » Avec
tout le monde lui dit ça, puis finalement...
Exactement, finalement, on
ne rendra pas le punch. Il y a un glaçon qui est tombé, m'a-t-on dit.
Concours de circonstances, les menaces de tout le monde, ou en fait, le danger que tout le monde soupçonne arrivera potentiellement. Finalement, je vous laisse vous faire une idée. On est dans un univers américain, familial américain, des parents caricaturés aussi, qui sont quand même assez intéressants. Le père gagne un prix comme ça à un moment, et c'est ça, je le dis pas parce que c'est d'un comique phénoménal.
C'est quoi, c'est drôle.
Bon, tu sais, il tient à ce que ça paraisse, mais là, on retourne dans les années...
c'est les 60, un peu,
quasiment. Ben, c'est ça, 60-70, en fait, où les mœurs étaient un petit peu plus... comment je pourrais dire? Il y avait plus de retenue.
C'est plus traditionnel, maintenant.
Donc, la mère est pas trop en accord avec le fait que le père veut exposer ce cadeau, ou ce gain qu'il a fait, je pense, au billard. bar ou au bowling, pardon, excusez-moi. Donc, en tout cas, je vous le dis, c'est un
mais
film
c'est un chef-d'œuvre de Noël, ça. C'est un film qui joue chaque année.
Moi, je trouve que
Noël,
c'est intemporel. C'est vraiment très drôle. J'avais
oublié le titre, par contre. Rappelle-nous le titre en français.
Une histoire de Noël, ben oui, ou A Christmas Story. Vraiment, c'est ça. C'est pas jeune, mais je trouve que c'est le fun, des fois, de se remettre dans un contexte historique, surtout à cette époque, du consentement universel, etc., finalement. Le fait de remettre en question nos mœurs actuelles en écoutant des films d'une autre époque, je trouve ça toujours intéressant.
Ah, bien sûr, voilà. ça peut provoquer toutes sortes de polémiques médiatiques, par contre, parfois.
C'est des brunchs. Oui. Toi, Jim.
Bien sûr. Ben écoutez, moi, comme d'habitude, je vais choisir quelque chose de pas écoutable. moi, j'ai décidé de vous parler d'un film qui s'appelle Les Rois Mages, sorti film français de 2001. Je sais vraiment pas pourquoi j'aime ce film-là, honnêtement. C'est très mal coté. Très mal fait. Mais je sais pas, j'adore ce film-là. Je trouve ça super drôle. Puis ça devrait peut-être pas. Mais en tout cas, c'est une comédie française du groupe Les Inconnus, donc créée et interprétée par Didier Bourbon, Bernard Campan, et c'est avec Pascal Légitimus. Ce film-là est absolument tordant, à mon goût personnel. Donc, les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, sont tombés dans une faille temporelle en voulant rejoindre l'étable de Jésus. Ils se retrouvent en 2001 à Paris, notamment chez des producteurs très enclins à profiter de cette opportunité médiatique. Ce film n'a aucun sens, absolument aucun sens.
C'est Les Inconnus, c'est ça.
C'est Les Inconnus, mais c'est ça, c'est Les Inconnus, donc c'est très drôle. Très, très absurde, là. Ça se gêne pas de dire n'importe quoi dans ce film-là. Mais je sais pas, c'est plusieurs fois que je regarde, puis à chaque fois, je trouve ce film merveilleux pour Noël ou pour Pâques. Hein?
Mais là, en fait, ils cherchent à retrouver Jésus, eux autres?
Non, mais eux autres, ils s'en allaient tranquillement vers l'étoile. Puis, ils se sont ramassés à Paris et puis ils comprennent pas ce qui se passe, mais ils trouvent ça bien le fun, par exemple. Puis, il y a une couple de personnes qui ont envie d'utiliser le fame, hein? Je vais me faire dire que j'ai fait un anglicisme, moi, là. Hein? L'incroyable réputation,
renommée
d'avoir les rois mages à une émission de télévision, par exemple, des choses comme ça.
Okay.
Et pour vendre des produits ou pour des choses comme ça. Donc,
ils se sont fait prendre au sérieux?
Écoute, il y a toute une des étapes là-dedans, okay. Là, parce que comme c'est les rois mages, ils ont certaines facultés particulières.
Ah.
Donc, on est, sans vouloir dévoiler rien, parce que clairement, personne ne va aller voir ce film-là, je peux dire que c'est un film intéressant, 2001, voilà. Donc,
je crois que c'est le même film que tu avais suggéré l'année passée.
À Pâques.
Ouais. Okay.
En disant que c'était bon pour Noël aussi. Là, c'est ça, je vais peut-être le repasser à Pâques, là, s'il n'y a pas de bon film de Lapin. Mais,
Non, mais il y a toujours Pierre Lapin, qui était excellent, qui est sorti à Pâques l'année dernière, qui est devenu mon classique. On ne rentrera pas dans les films de Pâques aujourd'hui,
parce qu'on va attendre Pâques. Laissons passer Noël.
Excellent film de Pâques. J'ai déjà hâte à Pâques pour le réécouter.
Bon. Voilà. Rien ne t'empêche de l'écouter d'ici Pâques. Hein,
oui,
c'est
pas pareil. C'est pas...
Ouais, non, c'est ça. Mais ouais. Merci. Alors
ben
voilà.
Merci,
c'est
Jim.
Tout pour ce bloc. Merci à tous. Ce bloc de nos suggestions de films pour Noël. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des suggestions de films pour Noël? Allez sur notre page Facebook en grand nombre et écrivez-nous votre suggestion parce que personne n'y va sur notre page Facebook. Mais bon.
Sérieux? Mais non,
c'est vrai. Mais moi, je suis déçu. Là. Je suis déçu. Là.
On va pas assez... Non, mais c'est vrai qu'on manque d'interactif. Il faudrait peut-être. Manque d'interaction.
J'avoue
avec,
que mon dernière publication remonte quand même au mois d'octobre, je pense. Là.
Ça peut peut-être expliquer l'autre. Hein. On va se dire les choses.
Ouais, j'ai peut-être une petite part de responsabilité sur cette histoire. Donc voilà, merci. C'est déjà la fin de cette émission de Cinébrunch pour cette semaine. Et pour toute la période des fêtes, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Et on se retrouve, nous, le 12 janvier. Ça va nous permettre de prendre un break. Parce que les films, c'est le fun, mais c'est le fun aussi quand c'est pour le fun. Hein?
Mais voilà.
Et voilà.
C'est
voilà.
Ben oui, non, mais ben, joyeuses fêtes à tout le monde, en fait. Effectivement,
ben oui.
Joyeuses fêtes à vous. Hein? Puis, Marianne aussi, Mélina, Jim.
Merci beaucoup, Ariane. Merci, Samuel. Merci, Mélina. Et merci, André-Jean. On se retrouve le 12 janvier pour un autre Cinébrunch avec plein de films. Il y a tellement de films pour le temps des fêtes. Si vous n'avez pas envie de pelleter, des fois, prenez vos raquettes, clac, 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 on descend au cinéma.
Ou vos skis de fond, si vous êtes plus haut, en haut de la King, ça descend très bien.
Et j'ai testé la souffleuse pour le popcorn, ça marche très bien.
Ah, voilà.
Voilà.
Excellent. Alors, merci, Jim.
Merci. Bonne fin de... Bonnes vacances.
Joyeuses fêtes.
Joyeuses fêtes.
Oui, à tous.